Puis vous ne l'entendez pas parce qu'on est en dedans, mais attendez, je vais ouvrir la porte. Je pense qu'un de mes voisins s'est acheté une guitare électrique. Puis un ampli. Je pense qu'il exagère. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans le champ lexical, on parle d'exagération. Comme lui.
Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot la plus écoutée en Amérique du Nord sur la radio numéro 1 au Québec et au Canada, CIBL 101,5 FM. Chaque semaine, on prend un mot choisi par des spécialistes parmi les meilleurs mots du dictionnaire et on vous offre autour de ce mot une pléthore d'entrevues, de reportages et d'extraits sonores, de quoi changer radicalement la façon dont vous voyez la vie en général. Et cette semaine, le mot c'est exagération.
Une exagération, c'est, selon Larousse, une parole, des écrits empreints d'excès, de démesure, une parabole, et c'est aussi l'action de grossir démesurément la proportion des choses. Et quand on parle d'exagération, on peut penser à un exemple bien tangible de démesurément quelque chose, et j'ai nommé Dubaï, capitale mondiale du bling. D'abord, à Dubaï, on retrouve The World, le monde, un ensemble de quelques 300 îles artificielles à quelques kilomètres des côtes. Vu d'un avion, leur disposition imite la carte du monde. Avis aux intéressés, le prix moyen de chacune d'entre elles est de 25 millions de dollars. Et désormais, à Dubaï, on retrouve la plus grande tour du monde, le Burj, tour en arabe. Elle a été construite par 12 000 travailleurs du bâtiment. Avant celle-là, la plus grande tour du monde, c'était la Taipei 101 à Taïwan, qui mesurait 508 mètres. Mais comme juste une centaine de mètres ou deux de plus ne fait pas la job pour supplanter correctement le plus haut bâtiment du monde, la tour de Dubaï mesure 828 mètres, soit 320 mètres de plus que le record précédent. On n'est pas loin du kilomètre. Sur les 160 étages du Burj, on retrouve un hôtel de luxe et 1100 appartements. Les premiers appartements se vendaient pour la modique somme de 19 562 $ canadiens, le mètre carré. Mais une autre chose d'envergure à Dubaï, c'est le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde avec 800 000 mètres carrés. Il dispose de 1200 boutiques et d'un aquarium géant. L'aquarium détient le record, d'ailleurs, de la plus grande vitre du monde, c'est-à-dire 32 mètres de large et 8 mètres de haut. Et elle peut résister, attention, aux 10 millions de litres d'eau qu'elle contient. Parmi les 33 000 espèces qu'on y trouve, il y a bien sûr des requins. En plus de l'aquarium grandiose, au Dubai Mall, il y a aussi le plus grand magasin de bonbons du monde avec plus de 930 mètres carrés de cochonneries. Donc, comme Dubaï est la ville de toutes les exagérations et les excès, voici mon conseil voyage de la semaine. Avis aux épileptiques. Trouvez-vous une autre destination?
All right.
burlesque, pour moi, ça incorpore beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Le burlesque, c'est se moquer de, c'est exagérer, c'est amuser. J'aime beaucoup le terme en anglais, ils disent entertainment. Mademoiselle Oui Oui Encore. Je suis fondatrice, directrice artistique et productrice et je fais de la performance au sein du Blue Light Burlesque. C'est une troupe et c'est aussi un spectacle. Puis on se produit depuis déjà 7 ans à Montréal. Dans le temps de la dépression, c'était très populaire parce que les gens étaient très déprimés. Puis tu avais des spectacles qui étaient abordables. C'était pas des cabarets qui étaient super chers. Et ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut du slapstick. C'est comme Laurel et Hardy, Abbott et Costello, deux hommes. Il y en a toujours un qui tombe à terre. l'humour, souvent un band ou un orchestre, dépendamment des budgets, un magicien, tout ce qui est, ça peut être une contorsionniste, tout ce qui peut amuser, divertir les gens. Et souvent, il y avait la cerise sur le sundae, c'était une effeuilleuse qui venait faire son spectacle, peut-être une chanteuse aussi, ou peut-être la chanteuse s'effeuillait. Mais ça englobait tout ça. Nous, notre version aujourd'hui, le néo-burlesque, il y a une grosse, grosse emphase sur le striptease, vraiment, ou l'effeuillage en français. On a comme vraiment gardé cette partie-là un peu plus. C'est évident que des fois, il y a des mix avec d'autres disciplines. De se déshabiller, qu'on le veuille ou non, c'est très puissant à regarder. C'est qu'il y a une montée, il y a une excitation, il y a une montée d'énergie de tease, de le strip tease. C'est vraiment le retour du tease dans strip tease ou aguicher son spectateur. Et ça, tu peux pas l'éviter. Là, il y a une montée. D'ailleurs, c'est très difficile de faire un strip tease à l'envers, de commencer nu puis de s'habiller, parce que l'intérêt, alors c'est là que j'ai compris, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'enlever tranquillement, puis c'est est-ce qu'elle ou il, parce qu'il y a des hommes aussi, est-ce qu'elle va en enlever plus? On sait bien que ça va finir probablement presque nu, mais peut-être c'est de garder vraiment son spectateur sur le, je dis toujours sur le bord de sa chaise à n'en vouloir plus. Puis moi, mon fan club, c'est pas des hommes qui viennent me voir. C'est des femmes qui viennent me dire que je suis belle, que je les inspire, puis qui veulent les autographes, puis qui veulent les photos avec moi. Je suis devenue comme une espèce de porte-parole de « vous êtes toutes belles et exprimez-vous ». Fait que le burlesque, ça touche beaucoup, quant à moi, là. C'est évident que pour monter sur scène, l'artiste burlesque, quand on fait un striptease, il y a les striptease burlesques, là, le néo-burlesque aujourd'hui, c'est le retour de la censure de l'époque. Donc, tu verras jamais une effeuilleuse burlesque qui va plus loin. On garde toujours un cache-sexe et des pasties. Des pasties, c'est des pastilles, c'est des cache-mamelons qui sont, pour moi, c'est très amusant parce que le cache-mamelon était la censure, mais c'est devenu, c'est que les femmes ont pris cette censure-là, puis on s'est dit, OK, comment est-ce que je peux me donner une twist pour rendre ça, justement, encore plus aguichant? Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis des pompons, elles ont mis des paillettes, ça devient des punchlines, des jokes et tout et tout. Donc, oui, moi, si je monte sur une scène et toutes les filles qui font du burlesque vont dire la même chose, je peux pas monter en jeans puis en t-shirt sur scène, c'est pas Mademoiselle Oui Oui Encore. Il me faut mes costumes, il me faut une bonne musique, puis ces plumes et paillettes-là, vraiment, ça fait partie
de toute la shibang qui fait que ça lève. Fait que oui, il y a tout ce décorum, mettre des fossiles, se friser, se mettre des brillants sur le corps, c'est super important. Mais c'est différent pour chacune, mais je vais parler de moi. Moi, il faut que je mette mes chaussures à talons hauts, mes brillants dans le décolleté, mes pasties, et là, ping, je deviens oui encore. Et là, attachez votre sucre avec la broche, là, parce que je peux défoncer des murs. Le burlesque et le néo-burlesque, c'est de l'exagération, mais c'est de l'exagération d'en faire plus avec moins.
Oh oui, tu peux pas tomber plus juste, c'est vraiment ça. Parce que chaque artiste de burlesque, c'est ça, c'est comme... Oui, exactement, je trouve ça tellement bon. C'est que c'est comment avoir de l'air vraiment, là, c'est ça... Over the top, là, c'est glamour, ça brille et tout, mais avec un budget absolument minime. C'est de trouver des trucs, on partage ça entre artistes de burlesque. Ah, comment t'as fait ça? Comment avoir l'air d'avoir un gros boa qui a l'air d'avoir coûté 600$, mais c'est peut-être 3 boas de 20$ qu'on a mis ensemble. C'est comme tout plein de petits trucs comme ça. Mais qui, un coup sur scène, la magie prend, puis c'est ça, le spectacle juste roule, puis c'est magique.
Merci, mademoiselle Louis, encore.
C'est tellement beau comme... Ouais, c'est comment faire plus avec moins.
Soir en cause, dans ta chose, en vent de se mettre au vieux. J'apprends la géographie, la Chine et de la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y'a même l'amour, c'est curieux, car rose l'enfile du milieu. C'est moi qui suis ta petite, ton anana, ton anana, ton anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanque qui, sa tanque qui, sa tanquinoise. D'autres rives font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanque qui, sa tanque qui, sa tanque moise. D'autres rires font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Semaine, ici Sani Duval en direct de la cuisine de Joanie Larue, une demoiselle qui n'exagère jamais, mais qui possède le plus beau chat du monde. C'est une chanson qui s'intitule, pour concorder avec le thème de la semaine, Exagération. La 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 la. Trouvez-vous que les danseuses de cabaret exagèrent quand elles arrivent sur scène avec seulement une plume sur le derrière? La 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 la. Quand elles arrivent sur scène avec seulement une plume sur le derrière, du maquillage et des petits bouts de tissu qui couvrent la pointe de leur sein. La 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 la. Trouvez-vous que les danseuses de cabaret exagèrent? Eh bien, je dis non. Au revoir.
Pendant 3 étés, j'ai travaillé dans une marinette camp de vacances à Saint-Donat. J'avais des tâches variées. Je devais gérer les activités sur le lac, superviser les activités des moniteurs aquatiques, réparer les bateaux avec de la potée et les voir couler le lendemain en plein milieu de la baie avec 6 enfants qui pleurent dedans. Bref, je m'occupais de la plage et on me surnommait la reine de la beach. Mais on s'entend qu'avec des réactions comme rire d'un enfant qui saute du tremplin puis qui perd son maillot, ben, j'avais plutôt le surnom de reine de la bitch. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce job-là. Une chance, parce qu'avec mon salaire de marde, j'avais pas les moyens de trouver ça plate. De toute façon, voir un enfant qui sait pas faire du kayak tourner en rond pendant 15 minutes parce qu'il pagayait juste d'un côté, ça a pas de prix. Mes moments préférés dans une journée restaient les « rescue » quand je sautais dans mon bateau moteur pour secourir des enfants pris sur le lac, telle une Baywatch girl sans les chirurgies plastiques, la course au ralenti puis David Hasselhoff. Armée de ma chaloupe bleue en aluminium et de mon moteur 9.9, ça c'est à peu près la force d'un dildo, là, je bravais vagues, pluie et éclairs pour aller chercher les enfants. Ça c'est quand mon moteur lâchait pas en plein milieu de la run, puis je me faisais remorquer par un ponton à 15 km/h. 15 km/h, c'est assez rapide pour faire un bruit puis attirer le regard des gens sur la rive, puis c'est assez lent pour qu'ils remarquent que c'est toi la tweet du village qui se fait tirer par un abri tempo qui flotte. J'ai pas toujours été en parfaite fusion avec ma chaloupe. La première fois que je l'ai conduite, c'était après un cours qui a fait tout sauf me donner confiance. Parce que, étonnamment, quand le professeur est un gros monsieur qui dit « Halloup » au lieu de « chaloupe », ça lui enlève beaucoup de crédibilité. J'ai quitté mon quai à 13h43 précise avec 8 moniteurs. Pour ceux qui ne savent pas, une chaloupe a une capacité maximum de 5 personnes. Le bord du bateau devait être à 3 cm de l'eau. À la première vague, la chaloupe s'est empressée de l'avaler par devant, provoquant l'élévation du derrière du bateau. Tout le monde s'est lancé à l'eau pendant que la chaloupe coulait, debout, tel un Titanic dans une version cheap du film de Cameron. Ça nous a pris 1 heure de tirer l'épave sur une petite île, la déchavirer, vider l'eau, puis repartir tirer par un ponton. C'était moins long que le film Titanic, mais pas mal plus excitant, puis on n'a pas eu à entendre la petite flûte de pan de la toune de Céline. La semaine suivante, j'ai reçu la visite de la police marine de Saint-Donat. À Saint-Donat, la police marine, c'est un pompier volontaire, un gérant de magasin, puis Manon, la fille qui anime les soirées dansantes au bar Western. Dans les petits villages, c'est ça, les fusions. Ils se sont approchés de mon quai, puis ont enlevé leurs lunettes fumées pour mieux voir. L'histoire du naufrage de la chaloupe à 9 passagers avait fait le tour du lac. Je m'imaginais déjà les mains dans le dos arrêtées pour grossière imprudence. Je suis à grosses gouttes, puis je commençais à avoir des points noirs quand il y a un des agents qui m'a dit « On voulait juste voir ta face d'innocente. Correct, les gars, on revient de bord. » Wow! Risée du village ou pas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Hey, t'es même pas obligé d'apprendre de tes erreurs, puis les gens continuent à te confier leurs enfants. Définitivement ma meilleure job à vie.
Mon Vox Pop de cette semaine, j'ai posé les 2 questions suivantes. Où trouvez-vous qu'il y a de l'exagération et quelle est votre réaction face à quelqu'un qui exagère?
Je pense que l'exagération, il y a place pour exagérer parce qu'on exagère beaucoup à beaucoup d'endroits.
Harper est trop à droite. Lui, il exagère. Oui, il donne des peines plus sévères à quelqu'un qui fume du pot que quelqu'un qui viole ou qui enlève des enfants.
Ben, M. Charest et ses grands projets, Plan Nord et les décisions qu'il prend sans nous consulter ou les demandes qui lui sont faites par la population qu'elle ne répond pas.
Non, ça c'est comme mentir. Non, je mente pas. C'est juste que genre, c'est mettons, tu vois un film puis genre que t'exagères parce que tu dis comme « Oh, il était trop bon, mais dans le fond, il était comme juste moyen. » C'est ça.
Non, je fais pas d'exagération. Souvent, j'abuse.
C'est exagéré, le monde qui met trop de parfum. Comme vraiment trop de parfum abusif, là. Genre, mettons, là, tu sais, y a des gars, là, ils se mettent autant de parfum qu'une fille, là. Ça, là, c'est dégueulasse.
Ça veut dire qu'une fille peut se mettre plus de parfum qu'un gars?
Ben ouais, c'est logique.
Quand les gens amènent leur petit animal de compagnie partout, comme s'il y avait autant de droits que nous, ça, je crois que c'est l'exagération à son compte.
Oh, ça dépend de ce que je fais là, mais quand je commence un vice, là, je sais pas m'arrêter.
Bah, moi, ça me gosse les filles qui se maquillent trop. Qui ressemble à un clown puis qui se passe belle. Moi, je suis pas capable.
Quand on mange trop.
Magasiner.
Magasiner, ouais, c'est vrai. Magasiner, c'est une. Mais je pense que c'est la faiblesse de toutes les femmes.
Hein. Oui, là, c'est vrai. Ce que les gens exagèrent dans les magasins, les vendeuses, des fois, quand elles disent ah, qu'est-ce que ça vous va bien, alors qu'en fait, on voit qu'on est vraiment très moche.
Le look! Je considère qu'il faut être original puis exagérer notre personnalité.
Ça veut dire que tu mens déjà sur toi-même.
Quand tu comptes tes histoires, t'es-tu genre à en mettre un petit peu plus?
Un petit peu. Juste pour faire une histoire plus intéressante.
C'est pas si tout le monde s'en rend compte?
Oui.
Ah, il pousse un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Si ça lui fait plaisir, puis que pour lui, c'est ou pour elle, ça fait son bonheur, tant mieux.
Ben, en général, je me sens mal parce que on n'a pas trop envie de contredire l'autre personne, mais en même temps, on sait que ça va pas, quoi. Donc,
Ben, je vais peut-être utiliser un peu d'humour, là, pour essayer de relativiser les choses. Même si t'exagères.
Je dirais, baisse le temps, là, arrête de la rajouter, là, reste tranquille, là.
Oui, c'est vrai qu'on se fout de ma gueule, je m'en vais. C'est-à-dire que si c'est vraiment, on essaie de me prendre, on essaie de faire une conversation sérieuse et on exagère vraiment, je trouve ça un peu insultant et je vais partir.
T'es pas de la police, là?
Mais non, je t'aurais pas demandé cette question-là. Je t'aurais demandé tes papiers, je t'aurais demandé vendre de la drogue.
Je veux pas dire qu'Harper devrait aller fumer, mais peut-être qu'il devrait.
Pousse, mais pousse égal.
Toi, saurais-tu quelque chose, ça? Bon, c'est rendu que je parle avec des chèvres maintenant. Si c'est une leçon d'humilité, c'en est une bonne. J'aurais finalement tout fait dans ma vie, moi. Séminariste, enseignant, cocu, accoucheur, puis maintenant ami avec une chèvre.
OK, quelques explications. On entendait un extrait de la télésérie Virginie. Le comédien Jacques Lheureux était assis sur une chaise dans un local, tenant une chèvre en laisse et ben, parlant avec la chèvre. Dans quelques minutes, il doit subir son rituel d'initiation pour une quelconque association secrète.
Quel symbole représentes-tu, toi? Une bête à cornes? Oh, il me semble que tout ça, c'est pas très catholique. Le bouc comme image du démon, mais une chèvre, d'autant plus que les femmes sont pas admises. Puis l'expression « sauter la chèvre ». Oh, t'aimes ça? Sauter la chèvre?
En télévision, on utilise l'expression « sauter le requin » pour désigner le moment où une télésérie devient officiellement n'importe quoi. C'est une expression qui réfère à une scène d'un sitcom américain intitulé « Happy Days ». Lors de la 6e année de l'émission, un personnage en ski nautique a évité le pire en sautant littéralement par-dessus un requin. Dans la scène de Virginie, c'est une chèvre que doit plutôt sauter le pauvre Jacques Lheureux.
Je me sens totalement ridicule d'entretenir une conversation dans un garage humide avec une chèvre stupide.
Dans le journal Voir de octobre 2006, le chroniqueur Steve Proulx se demande si Virginie a déjà sauté le requin. Son verdict, et je cite, « Pour ma part, j'ai l'impression que la prof de Sainte-Jeanne d'Arc est allée jusqu'à faire du rodéo à dos de squale. »
Oui. Je sais, j'aurais pu faire mieux. Mais je le referai plus parce que... Il y a des limites à subir.
Comme tu dis, mon Jacques, il y a des limites.
Environ 150 tentes sur les lieux. C'est vraiment croissant en tant que tel. Le premier jour, on se retrouvait à être à peu près 70 tentes. Le deuxième jour, on était à 120, puis là, on est rendu à environ 150. Fait que c'est vraiment cool.
Ça, c'était mercredi soir. Aujourd'hui, il y a plus de 200 tentes au Square Victoria pour Occupons Montréal. Ce qu'on entend, ce sont des extraits de l'Assemblée générale qui se tient tous les soirs à 18h. Et ça commence toujours par un résumé de la situation.
Alors, après la génératrice, on a les toilettes chimiques. Maintenant, vous pouvez faire vos besoins ici. Parce que nous, on écoute les besoins du peuple.
Ceux qu'on appelle parfois les indignés sont là parce qu'ils considèrent que le système financier et économique dans lequel on vit exagère. Et ça tombe bien, parce que cette semaine, dans le champ lexical, on parle d'exagération.
Thank you.
À Occupons Montréal, il n'y a pas de chef. Il y a des comités qui travaillent dans la journée pour apporter des propositions, mais toutes les décisions sont prises par l'Assemblée de l'Assemblée générale. Pour y arriver, il faut que les facilitateurs, les gens qui animent l'Assemblée, soient en mesure de pouvoir lire et sentir l'humeur générale de la foule. On a donc conçu plusieurs signes de main qu'il suffit de faire pour signifier ce que l'on pense de ce qui se dit en avant, sans tout interrompre.
Il y a le signe de bouger les mains dans l'air, comme ça. Tout le monde comprend que ça veut dire « on est d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis ».
Donc, plutôt que d'applaudir bruyamment, on agite les mains en l'air. C'est clair. Mais à l'assemblée à laquelle j'ai assisté, on essayait de nouveaux signes afin d'apporter un peu plus de nuance. Et pour être nuancé, c'était nuancé. Peut-être même un peu trop.
Lever les mains, mais faire comme ça, vers les bas, OK? Ça veut dire, je suis pas très contente, mais je suis pas contre complètement. Ça va. Je suis en perte de désaccord, mais ça va, OK?
Sans rien exagérer, on pourrait presque dire que c'est plus facile de trouver des chansons qui déforment un peu la réalité que l'inverse. Comme quoi les chanteurs aiment bien nous faire croire des affaires et nous surprendre. Par exemple, dans la chanson « Tu te laisses aller », le chanteur Charles Aznavour explore un registre un peu plus vache que ce à quoi il nous a habitués avant. Il y parle d'une conjointe qui exagère en ne faisant plus beaucoup d'efforts pour être présentable devant lui-même et les autres. Il lui reproche par exemple de porter des bigoudis et de le contredire tout le temps devant ses amis. Et puis, il finit même par lui dire de se bouger un peu si elle veut maigrir. Et pourquoi pas d'accrocher un sourire à sa face. Oui, oui, texto.
T'exagères, tu le sais maintenant, parfois. Je voudrais t'étrangler, Dieu. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Jacques Brel est prêt à bien des choses impossibles pour éviter de voir disparaître celle qu'il aime dans son grand classique « Ne me quitte pas » qu'il a écrit en 1959. Il lui promet des perles de pluie qui viennent de pays où il ne pleut pas et lui annonce qu'il est prêt à creuser la terre jusqu'après sa mort pour couvrir son corps d'or et de lumière.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps.
En 1970, le sympathique chanteur britannique Roger Whittaker, et oui, le même qui nous a donné l'inoubliable Mammy Blue, enregistre Un éléphant sur mon balcon. Il a l'air surpris de trouver un éléphant sur son balcon, comme on s'en doute, alors que l'ascenseur ne fonctionne même pas dans son édifice. On se dit que soit Roger Whittaker exagère pas mal, soit il en a fumé du pas mal bon.
Un éléphant sur mon balcon, je crois avoir perdu la raison. Pourtant l'animal se trouve là, mais oui, dans mon studio de nez.
Dans Moi je mange, son plus gros succès en carrière, Angèle Arsenault nous avoue son obsession pour la bouffe. Elle dit qu'elle mange pendant que d'autres prennent un petit coup, fument des petits bouts, placotent tout le temps, vont au bingo, font des enfants ou de l'artisanat, et on en passe. Bref, elle mange tout le temps. C'est à se demander si elle a déjà entendu parler des outre-mangeurs anonymes.
Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange.
En 1991, le groupe Les Bébés compose la chanson Snob, où il est question d'une fille dont on peut dire qu'elle ambitionne un peu sur le pain béni, pour reprendre une expression populaire. Elle veut juste avoir dans la vie une Jaguar, un serviteur, un chauffeur personnel, des robes, des visons et du caviar, entre autres choses. Et oui, rien que ça.
Elle rêve d'avoir une Jaguar, son serviteur et son chauffeur. Voir du pays en première classe.
Le groupe acadien Radio Radio nous invite dans sa jacuzzi grosse comme dans les movies, tellement qu'on peut la voir de la Deep Space Nine et qu'elle traverse 7 time zones. Les gars, ce serait pas un peu exagéré, rien qu'un tout petit peu?
J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi.
Dans le champ lexical, s'attarde aujourd'hui à une pièce dont on ne peut pas dire que la durée est exagérée. C'est même pas mal le contraire, vous allez voir. Il s'agit de « La valse minute », chantée en 1967 par la Québécoise Monique Lérac, ou, si vous préférez, Monique Tremblay sur son baptistère. Pas de farce, là, Monique Tremblay. Dès les premières notes, vous allez probablement reconnaître l'air de la valse en ré bémol opus 64 du compositeur Frédéric Chopin, qu'il a composé en 1846. Monique Lérac fait part d'un paquet d'exagérations auxquelles elle doit faire face en lien avec la chanson. Elle raconte qu'elle a juste une minute, une toute petite minute, pour chanter une valse et que c'est le résultat d'un pari un peu fou qu'elle a fait avec des amis un soir où elle avait bu pas mal trop de whisky. Méchant défi, parce qu'à cause du rythme très rapide de la valse en question, elle n'a pas le droit à l'erreur et n'a vraiment pas d'autre choix que d'articuler de façon la plus précise possible. Le résultat? Une chanson rigolote d'à peine 1 minute 30 qu'on peut comparer à une sorte de petite prouesse musicale, sans aucune exagération.
Je n'ai qu'une minute, une petite minute, je n'ai rien qu'une minute, une petite minute, une toute petite minute, pour vous chanter une valse d'une minute qui ne dure pas plus d'une minute. Oui, je peux la chanter, l'articuler sans faire une faute et sans oublier une seule note. Ce n'est pas si facile que ça, mais il faut que je vous explique. J'ai parié l'autre soir devant tous mes amis que rien n'était plus facile et quand j'ai réussi, ils m'ont offert une bouteille de whisky et depuis je bois pour rien dans toutes les surprises parties. Je leur fais la surprise, ils font le parti. J'aime beaucoup Chopin, mais j'aime encore mieux le whisky. Si Chopin avait su ça, je suis sûre qu'il ne l'aurait jamais écrit. Je trouve ça vraiment curieux et quelquefois c'est vraiment très ennuyeux quand je fais bouillir mes œufs. Trois fois de suite, je dois la chanter, mon Dieu. Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes, je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes, je n'ai plus que la moitié d'une minute pour vous chanter cette valse d'une minute qui ne dure pas plus qu'une minute. Quelquefois je me demande si je suis une femme ou si je suis une cocotte minute. Justement mon mari me disait l'autre jour, j'en ai vraiment assez, tu t'arranges toujours pour faire ce que tu fais à la dernière minute. Mais moi je lui ai dit alors la part d'un minute. Essaie de trouver quelqu'un qui, comme moi, peut tout faire dans une minute.
Un matin, fin septembre dernier, en lisant le journal, vous êtes peut-être tombé sur cette nouvelle. Des chercheurs auraient découvert que des neutrinos pourraient voyager plus vite que la lumière. Comment ont-ils découvert ça? Eh bien, simplement en lançant des neutrinos à travers la Terre, à partir de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, près de Genève, jusqu'au laboratoire italien du Grand Sasso, 730 km plus loin. Et en calculant le temps écoulé entre le départ des neutrinos et leur arrivée, ils en sont arrivés à la conclusion que les particules avaient voyagé probablement plus vite que la lumière. Et là, à chaque trois mots, vous vous êtes probablement dit « ben voyons donc ». D'abord, des neutrinos qui passent à travers la matière solide, hein? Ensuite, des neutrinos qu'on envoie 730 km plus loin, hein? Et finalement, des neutrinos qui voyagent plus vite que la vitesse de la lumière? Ben voyons donc, il y a quelqu'un quelque part qui exagère, là. Avec Stéphane Durand, chercheur au Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal et professeur de physique au Cégep Édouard-Montpetit et à l'Université de Montréal, reprenons tout ça du début. Des particules qui passent à travers la matière?
Oui, en fait, les neutrinos sont des particules très, très, très mystérieuses, peut-être parmi les moins bien comprises, les moins bien connues là, de la physique d'aujourd'hui. Et une de leurs propriétés vraiment spéciales, c'est qu'elles passent à travers absolument tout. On reçoit sans arrêt des milliards et des milliards de neutrinos par seconde de l'espace qui traversent toute la Terre, toute la planète, qui traversent notre corps en ce moment. Et donc, ces particules-là sont vraiment insensibles à presque rien, ils traversent tout. Il faut savoir que la matière qu'on connaît autour de nous, là, qui a l'air solide, qui a l'air tangible, là, c'est en réalité 99,9% de vide, là. Et si je prends l'atome le plus simple, ou en fait l'atome de carbone, là, qui est partout dans la vie, un atome de carbone, c'est un noyau dur, c'est-à-dire composé de protons et neutrons, donc des particules bien connues, avec autour des électrons qui tournent. Mais il y a beaucoup de vide là-dedans. pour bien comprendre ça, imaginons que je grossis mon atome pour qu'il soit aussi gros que le stade olympique. Mon cœur solide, mon noyau atomique de neutrons et de protons serait gros comme un ballon de plage au milieu du stade, et les électrons, ça serait quelques petits grains de riz qui se promènent dans tout l'intérieur du stade olympique. Donc on voit que c'est juste du vide. Et bon, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de force en jeu qui fait que ça tient, que c'est solide. Mais il y a beaucoup de vide dans la matière, donc certains objets, certaines particules passent dans ce vide-là sans absolument aucun problème.
OK. Numéro 2. On envoie des neutrinos à travers la Terre, 730 km plus loin. Qu'est-ce que c'est ça, cette expérience-là?
Et donc, cette fameuse expérience-là, la première étape, il n'y a rien de compliqué. On envoie des neutrinos dans une certaine direction et sur 730 km plus loin, on a un détecteur de neutrinos qui va détecter les neutrinos. Les neutrinos, donc, passent à travers la Terre, mais ça, c'est, on n'a pas besoin de creuser le tunnel. Les neutrinos passent à travers la Terre de façon toute simple. C'est ça. C'était pas le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'était de vérifier si une des caractéristiques du neutrino se transformait en chemin, là.
OK, et des neutrinos qui voyagent plus vite que la vitesse de la lumière?
Mais on s'est aperçu en faisant l'expérience que quand le neutrino arrivait à l'autre bout, qu'il arrivait un peu plus vite que prévu. C'est-à-dire que il arrivait après un certain délai tel qu'il fallait supposer qu'il est allé plus vite que la vitesse de la lumière pour arriver dans ce temps-là. Et c'est ça, en fait, qui est la grande nouvelle. Parce que on entend souvent dans les nouvelles, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Rien ne peut dépasser la lumière. Il faut faire un petit peu attention avec cette affirmation-là. En réalité, aucune forme de matière et d'énergie et de communication contrôlée ne peut aller plus vite que la lumière. Mais il y a des choses déjà qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Par exemple, l'expansion de l'espace, à partir d'une certaine distance, se fait à une vitesse plus grande que celle de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies assez loin de nous qui s'éloignent en ce moment à une vitesse plus grande que celle de la lumière de nous. Autre chose aussi, dans la physique quantique et de cette fameuse théorie totalement déroutante qui décrit le monde microscopique de la matière, il y a toutes sortes d'affaires très, très bizarres qui se passent. Il y a des effets très, très subtils qu'on appelle l'intrication quantique ou le paradoxe EPR. Et à ce niveau quantique-là, il y a des choses qui se font instantanément, donc plus vite que la lumière. Sauf que la chose fondamentale à bien comprendre, c'est que le problème, le vrai problème, c'est pas de dépasser la vitesse de la lumière. C'est d'avoir quelque chose qui va plus vite que la lumière, qu'on peut contrôler. Parce que la théorie d'Einstein nous dit la chose suivante, très amusante, nous dit que si on va plus vite que la lumière, ça permet en fait des inversions de causalité. C'est-à-dire que ça permet d'inverser la cause et l'effet. Donc si par exemple je tire au fusil vers une cible, la causalité normale, c'est que la balle part du fusil et arrive un peu après dans la cible. Si la causalité est inversée, c'est-à-dire que, de mon point de vue, je vois la balle partir de la cible, voyager à reculons et rentrer dans le canon du fusil. Et donc, dans les deux exemples que j'ai mentionnés juste avant, l'expansion de l'univers qui serait plus rapide que la lumière à partir d'une certaine distance, ça c'est quelque chose d'incontrôlable, qu'on peut pas contrôler, donc on peut pas s'en servir pour envoyer des messages qui reviennent vers nous. Et le fameux effet quantique, instantané, lui aussi est fondamentalement incontrôlable parce que fondamentalement aléatoire, c'est une des caractéristiques vraiment cruciales de la physique quantique, donc on peut pas utiliser cet effet-là pour communiquer. La grande affaire avec les neutrinos, c'est qu'ils iraient à la fois plus vite que la lumière et ils ont l'air d'être contrôlables, donc on pourrait s'en servir pour communiquer. C'est ça le vrai punch.
Donc, il y a des choses qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, et d'autres qui vont tellement vite qu'elles partent avant même d'être arrivées. C'est bien beau en théorie, mais ça semble tellement exagéré. Est-ce que les physiciens y croient vraiment?
La façon de juger une théorie en physique, c'est est-ce que c'est cohérent? Ça veut dire, est-ce que ça conduit à des contradictions? L'autre critère qui est, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est trop bizarre pour être vrai? Ça, en physique, là, l'histoire nous l'a montré. On peut pas se fier là-dessus. Là. L'histoire de la physique, c'est l'histoire de choses qui ont l'air impossibles, qui s'avèrent être vraies. La nature est beaucoup plus imaginative et beaucoup plus flayée que nous. Et on doit s'habituer à ces concepts-là déroutants. Par exemple, on a l'impression dans la vie courante que le temps s'écoule de façon absolue. C'est-à-dire que le temps s'écoule de la même façon pour tout le monde. Que c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas manipuler. Ben, depuis Einstein, on sait que c'est faux. On peut ralentir l'écoulement du temps de deux façons, avec des grandes vitesses ou avec des grandes, grandes sources de gravitation. Et quand on ralentit l'écoulement du temps, enfin, on le fait à grande vitesse dans les accélérateurs de particules, les particules vont tellement vite que leur temps est ralenti là, par un facteur 30. Ça veut dire qu'on réussit à ralentir l'écoulement du temps de certaines particules de telle sorte que leur temps s'écoule 30 fois plus lentement. Ça veut dire qu'on les fait vivre 30 fois plus longtemps. On le fait en laboratoire. On réussit à prolonger la vie de particules en ralentissant le temps physique. Fait que ça, c'est quelque chose qui a l'air de la science-fiction, puis c'est la réalité. La nature, ça nous surprend. T'sais.
Depuis une dizaine d'années, chaque fois qu'on entend parler de physique et de choses comme ça, c'est toujours à partir de... Par exemple, l'accélérateur de particules, qui est un immense tunnel qu'il a fallu creuser pendant des années, qui a coûté vraiment cher. Là, on parle d'une expérience où on a lancé des particules à 700 km de distance. Est-ce que c'est possible de faire de la physique aujourd'hui sans avoir besoin de trucs qui semblent exagérés comme ça?
Même en physique absolument fondamentale, il y a des expériences qui se font à beaucoup moindre coût. Par exemple, une idée très, très intéressante aujourd'hui, là, qui est une idée spéculative, mais très sérieuse, c'est de dire que contrairement à ce que nos sens nous indiquent, il n'y a pas juste 3 dimensions d'espace, mais il y aurait 10 dimensions d'espace. Donc, nous, on vit dans 3 qu'on perçoit, mais il y en aurait 7 autres ailleurs, cachées. Et là, il y a 2 façons, en fait, qu'on perçoive pas ces 7 autres dimensions-là. Elles sont peut-être aussi grandes que les 3 qu'on connaît bien, mais je dirais, là, pour résumer très, très rapidement, fait d'une sorte de... d'un type un peu différent dans lequel la matière ordinaire peut pas aller. La matière ordinaire est comme confinée, prise dans 3 de ces 10 dimensions-là. Mais il y a une autre explication possible aussi, c'est de dire que les dimensions supplémentaires sont aussi réelles ou du même type que les 3 qu'on connaît bien, mais qu'elles sont enroulées sur elles-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'elles existent juste à un niveau microscopique. Nous, on les voit pas parce qu'elles sont trop petites, mais les particules qui voyagent, en fait, pourraient faire des petites spirales dans ces dimensions-là cachées supplémentaires, et c'est ces petites spirales-là qui pourraient expliquer toutes sortes de choses inexpliquées aujourd'hui. Et donc, cet aspect-là très précis, de est-ce que je pourrais tester si les dimensions supplémentaires existent bel et bien, et si elles sont à toute petite échelle, il y a des expériences qui se font vraiment à coût pas élevé, où on essaie de tester, par exemple, la loi de la gravité sur 1/1000 de millimètre ou 1/10000 de millimètre pour voir si elle suit toujours la loi qu'on connaît. Parce que s'il y a vraiment des dimensions cachées à très petite échelle, une partie de l'intensité de la force de gravité va se perdre dans ces dimensions-là. Et donc, il va en rester moins dans nos 3 dimensions à nous normales. Et donc, notre loi à très petite échelle devrait changer. Et ça, c'est une expérience vraiment fondamentale. Si on découvre quelque chose dans cette expérience-là, ça va être révolutionnaire. Puis ça coûte pas cher.
Wow. Est-ce qu'on s'habitue à un moment donné, à force de côtoyer des théories saugrenues comme ça?
Bon, je pense qu'on s'habitue. Et non seulement on s'habitue, mais on en veut toujours plus. T'sais. Moi, ce que je trouve fabuleux de la physique, il y a comme 2 étapes. Il y a l'étape des idées flyées, ça c'est une chose, mais ça on peut lire de la science-fiction, puis il y a beaucoup d'idées flyées dans la science-fiction aussi. Et la 2e étape, c'est lorsqu'on formalise cela. Ça veut dire lorsqu'on rend ça rigoureusement écrit dans un formalisme mathématique. Et donc on fait des calculs avec ces idées flyées-là, et le calcul nous dit, ah, c'est pas juste une idée vague et floue, c'est une idée précise qui permet d'arriver à un chiffre, et je pourrais faire une expérience pour vérifier le chiffre, et si l'expérience vérifie le chiffre, ça veut dire que... Mais tout le calcul est peut-être pas nécessairement parfaitement exact, mais un pas dans la direction de quelque chose qui correspond à la réalité. Et c'est ça que je trouve puissant, en fait, de la spéculation, je dirais, philosophique ou qui ressemble à la science-fiction de la physique, c'est que les idées flyées de la physique, même si elles sont spéculatives, elles sont précises, rigoureuses, et un jour, on va trancher. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, peut-être ça va être faux, puis on va être déçu. Mais c'est que ça, à un moment donné, c'est qu'on peut trancher. Mais bon, pour revenir à la question, puis clore un petit peu, peut-être là-dessus, c'est que, ben, on s'habitue, mais on en veut toujours plus.
Mais revenons à notre expérience de départ, celle sur les neutrinos qui iraient prétendument plus vite que la vitesse de la lumière. Quelles sont les chances que les calculs soient exacts Oui, inexact.
Bon, c'est certain qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une erreur dans l'expérience, en quelque part. Là, c'est sûr que c'est une expérience très, 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 très raffinée, mais très subtile, avec plein de petits effets dont on doit tenir compte. Puis, pour mesurer la distance, par exemple, on doit tenir compte, ils ont même tenu compte de la dérive des continents, des mini-tremblements de terre, de l'influence de la Lune sur la Terre, qui change un petit peu la forme de la Terre, donc change les distances, pour être sûr qu'ils tenaient compte de tout. Mais des fois, on oublie quelque chose quand même. Parce que c'est tellement, si c'est vrai comme expérience, c'est sûr que c'est une révolution hallucinante, pas seulement parce que ça va plus vite que la lumière, comme je l'ai dit, mais parce que ça serait quelque chose de contrôlable qui va plus vite que la lumière. Et donc, ça permettrait d'envoyer comme des messages dans le passé. Et envoyer des messages dans le passé, ça conduit à des paradoxes, des contradictions. Fait que là, il y aurait vraiment quelque chose vraiment, vraiment de crucial à comprendre. En fait, ça conduit à des paradoxes si on suppose que le libre arbitre est vrai. C'est-à-dire, le libre arbitre, c'est cette sensation qu'on a de toujours être libre de nos faits et gestes, de nos pensées, puis de nos actes, puis de nos décisions. C'est ça qui conduit à des paradoxes. Si c'est une illusion, comme certains philosophes aiment à le dire, on peut montrer qu'on peut contourner les paradoxes. Mais tout ça pour dire que ça serait une façon où la science arriverait, là, d'une façon un petit peu détournée à des questions absolument cruciales. Et non, ça serait assez foudroyant comme résultat.
Sans penser à demain, vivons le ciel.
C'est tout pour nous cette semaine. On aurait bien aimé faire comme Jean-Marc Parent et défoncer l'heure, mais on aurait eu de la peine de tasser l'émission « Le DJ est une ordure » qui suit à l'instant sur les ondes de CIBL. Mais avant de vous quitter, citons le roi de l'exagération, celui qui a écrit le summum de l'hyperbole, Edmond Rostand, dans son célèbre monologue de la pièce Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif, moi monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer une nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule, d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?
Dans le champ lexical est une émission originale de Mathieu Charlebois et Joanie Larue. Nous ont exagérément aidé cette semaine Sonny Duval à l'hyper bonne chanson originale, Nadine Mathurin à l'anecdote extrême, Annie Rossano au super de Vox Pop et Pierre Duchesneau aux excessives chansons-thèmes. Vous pouvez télécharger l'émission au www.danslechamplexical.com ou vous abonner à notre balado sur iTunes. En terminant, dites-vous ceci. Dans 7 jours, il sera une semaine plus tard et nous tournerons autour du mot « fille ».